Quand j'étais petit, j'avais un rêve, c'était de devenir acteur. Et d'un autre côté, ce que j'avais envie de faire, c'était aussi de faire du commerce. Et en fait, c'est marrant, mais quand on veut vraiment quelque chose, quand vraiment on a des passions qui peuvent être différentes, et ben on trouve toujours finalement un moyen de les mettre ensemble. Et aujourd'hui, même si je ne fais pas des films à Hollywood, et ben malgré tout, j'expose ma tête sur les réseaux sociaux, je fais des sortes de petits films en parlant de commerce, en parlant de vente, en parlant de closing, de marketing, de persuasion. Et donc au final, toutes les singularités, toutes nos passions, si on parvient à les combiner ensemble et à les mettre en place au service par exemple d'un business ou autre, et ben finalement ça peut donner des choses assez intéressantes. Donc réfléchissez si aujourd'hui vous n'avez pas des passions qui pourraient se combiner. Généralement, c'est ce qui vous permettra de créer votre singularité et de vous différencier sur les réseaux.
Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès. Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alec Henry, l'initiateur du mouvement Entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec Le Déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence.
Salut Bastien.
Salut Alec.
Comment tu vas ?
Mais écoute, super bien, merci de m'inviter sur Le Déclic, c'est un plaisir.
Eh bien écoute, avec grand plaisir, c'est une nouvelle masterclass qu'on va délivrer ici. Je vais rapidement te présenter.
J'espère.
Donc Bastien, tu es fondateur d'une agence spécialisée dans l'acquisition de clients à travers les réseaux sociaux. Tu as réussi à créer une audience de plus de 800 000 personnes sur différentes plateformes autour de ton expertise qui est la vente. Tes vidéos atteignent annuellement un public de plus de 100 millions de personnes. Ça fait plus de 5 ans justement que tu es dans la vente, tu as fait plus de 1000 appels à ton actif, tu as développé une approche de vente unique axée sur la persuasion plutôt que sur la conviction. Ton expertise t'a conduit également à des collaborations avec des titans tels que Orange, Amazon, Notion et Pipedrive. Et de par cette forte croissance sur les réseaux, tu as fait face à différents enjeux de positionnement notamment, on en parlera tout à l'heure, ça peut être intéressant.
Carrément.
Et comme tu me disais en off, juste avant, je te disais, ouais, tu bombardes sur les réseaux, tu as compris comment ça fonctionne, tu m'as dit, j'ai un clou et je tape dessus comme un malade. Donc ouais, on va voir comment bien taper sur ce clou. Mais avant de démarrer, avant dans le vif du sujet, j'aimerais revenir un peu à tes débuts. Comment est-ce que tu as commencé dans le domaine de la vente, dans le domaine des réseaux sociaux, pour que le Bastien Pélissier qu'on voit au quotidien nous partager des astuces, des tips, des vidéos qui font des centaines de milliers, des millions de vues, devienne la personne qu'il est aujourd'hui?
Écoute, j'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que moi, à l'école, j'étais un petit peu une chèvre et donc j'avais pas l'opportunité en sortant de l'école de soit faire une grande... aller rentrer dans une grande entreprise, j'avais pas un grand diplôme ou autre. Et donc, moi, j'ai été un petit peu obligé de créer ma boîte, j'étais obligé de créer mon activité. Pour tout te dire, quand j'étais en seconde année d'école de commerce, avec un associé, on avait déjà créé une agence parce qu'on n'arrivait pas à trouver d'alternance. Et donc, un petit peu par la force des choses, on a commencé à créer notre activité. Ça n'a pas marché au début. Mais ensuite, au fur et à mesure, mon activité, elle a commencé un petit peu à prendre. J'ai commencé à gagner mes premiers euros. Et c'est ce qui m'a fait qu'au final, moi, je n'ai jamais été salarié. Depuis le début, la seule chose que j'ai à mon actif, la seule fiche de paie que j'ai, c'est lié à un stage que j'avais fait quand j'étais en première année d'école de commerce. Et ensuite, depuis, je suis en full entrepreneur. J'ai tout appris un petit peu sur le tas. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé aujourd'hui à, depuis maintenant, 5-6 ans, être à la tête d'une agence.
Donc, ça fait 5-6 ans aujourd'hui que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, c'est ça?
Exactement. À peu près. Ça fait à peu près 5-6 ans. J'ai lancé, comme tout le monde, une petite boutique de dropshipping au début qui n'a pas marché. Donc, est-ce qu'on peut appeler ça de l'entrepreneuriat? Je ne sais pas. Mais par contre, ça doit faire 6 ans que vraiment je me fais un salaire, que vraiment je gagne de l'argent avec mon activité. Et donc, pour moi, c'est à partir de ce moment que vraiment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat.
Et il y a 6 ans, du coup, on était quoi, en 2017.
Ouais.
C'est sensiblement la même période où je crée ma première boîte officiellement, en juillet 2017. Pendant 5 ans, disons que je vivotais et je faisais un petit peu d'argent à gauche, à droite et j'avais un statut équivalent à l'auto-entrepreneur, si on veut. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 6 ans, sur Internet, il n'y avait pas autant de contenu qu'il y en a aujourd'hui. Ce n'était pas aussi simple de se lancer dans l'entrepreneuriat seul et en partant de zéro. Ce n'était pas à la mode non plus. Toi, comment tu t'y es pris? C'était quoi les premières étapes, notamment pour trouver tes premiers clients? Et puis, est-ce que tout de suite, tu avais cette aisance à l'oral et cette capacité à vendre, ou est-ce que tu as dû l'acquérir au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure des noms?
Alors, je pense que j'ai toujours eu, moi. J'ai toujours adoré, par exemple, les exposés à l'école. Quand il fallait faire une présentation à l'oral, j'adorais ça. Donc, je ne sais pas si j'étais bon, mais en tout cas, j'ai toujours aimé le faire. Et au début, j'ai essayé. J'ai un père qui est entrepreneur et il m'a toujours montré l'entrepreneuriat comme une possibilité dans ma carrière. Et donc, vu que je n'étais pas bon à l'école, je me suis dit, bon, moi, j'irai monter ma boîte. Et au début, on avait lancé des projets, on voulait lancer notre start-up avec un de mes potes. Et au final, on avait fait des business plans et tout, mais on n'a jamais gagné un copec avec ça. Et un jour, alors là, Alec, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on a une petite histoire commune.
Ok.
C'est qu'un jour, je tombe sur une vidéo d'un gars qui s'appelle Léo Guillot. Ça veut dire quelque chose, normalement, non ?
Ah, effectivement, ça me dit quelque chose.
Ouais. Je tombe sur la vidéo d'un gars qui s'appelle Léo Guillot et qui m'explique qu'on peut vendre un produit sans le détenir. Bref, on découvre le dropshipping. Et alors là, c'est là où je suis tombé un petit peu dans la spirale infernale du marketing digital. Et on n'a pas fait des sommes faramineuses avec notre site de dropshipping, mais c'est là où on a commencé à gagner nos premiers sous. Et alors, le dropshipping, c'était trop bien car ça m'a fait découvrir le marketing. Ça m'a fait découvrir les limites du marketing quand on faisait des choses qui n'étaient pas toujours éthiques, si on est 100% transparent. Franchement, mon père m'avait dit, je suis dégoûté, mon fils est un escroc. Parce qu'au début, sur le site de dropshipping, on nous expliquait qu'il fallait mettre des pop-up en disant « Attention, il ne vous reste plus que 5 minutes avant de bénéficier de cette promotion. » Évidemment, tout était fake. Et donc, ça m'a appris le côté obscur du marketing, ça m'a appris le côté lumineux, la force du marketing. Et encore une fois, si ça ne nous a pas permis de cartonner en termes d'argent, ça m'a appris quand même à vendre en ligne. Et après, moi, je n'aimais pas trop le dropshipping parce que c'était quand même très technique. On ne parlait pas avec les gens et moi, j'aime bien l'humain quand même. Et donc, on va dire, grâce à l'expérience qu'on avait acquise sur le site de dropshipping en marketing digital, moi, j'ai commencé à le proposer en prestation de service à des entrepreneurs qui avaient besoin de faire des publicités Facebook quand à l'époque, personne connaissait les publicités Facebook. Donc voilà après comment je me suis lancé dans une carrière plus traditionnelle d'agence et de prestataire de services.
Ok, je vois. Et dans certaines de tes interviews, tu mentionnes un certain déclic avec une personne influente qui t'aurait tagué pour vanter ton expertise à un moment donné.
Exactement.
Est-ce que tu peux nous en dire plus sur celle-ci et surtout les conséquences que ça a eues sur ta vie ?
Carrément. Moi, ça doit faire 2-3 ans. J'avais donc mon agence. Je vendais des prestations, je vendais aussi des formations en ligne, mais bon, c'était pas automatisé, c'est-à-dire que j'avais encore, je faisais de la prospection sur LinkedIn pour choper des appels téléphoniques. Et un jour, je vais au restaurant avec ma copine, et à un moment, il y a mon portable qui commence à vibrer. Il commence à vibrer de dingue. Je reçois des notifications de personnes qui veulent travailler avec moi. Je reçois des messages de gars qui me disent combien coûte ta formation. Je reçois des notifications Stripe parce qu'il y a des personnes qui achètent directement en live ma formation alors que j'avais fait aucune action de communication. Et en fait, il y avait quelqu'un donc, qui s'appelle Mickaël Aguilar, qui est l'influenceur numéro 1 sur LinkedIn francophone, qui a fait une publication dans laquelle il expliquait que pendant le Covid, il avait suivi plusieurs formations, dont la mienne, et qui lui avait plu. Et là, je n'ai rien compris à ce qui m'arrivait. En l'espace de quelques heures, j'avais fait l'équivalent de, à l'époque, 3 mois de chiffre d'affaires. J'avais fait, je crois, 60 000 euros de vente. Et encore, à chaque fois, je dis 60 000 euros, mais je pense qu'en cumulé avec les clients que j'ai encore aujourd'hui, que j'ai eu grâce à cette publication, je crois qu'on doit chiffrer plutôt aux alentours des 100, 150 000. Bref, j'ai halluciné. Mais vraiment, j'ai halluciné du pouvoir de Mickaël. Et c'est à ce moment où j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen. Il me faut un moment avoir cette force, cette capacité d'activer directement un petit peu sur demande une base de données et pouvoir faire 60 000 euros sur demande. Moi, j'ai halluciné. Ça a été vraiment le déclic qui m'a dit, Bastien, il faut une communauté.
Ok. Et c'est assez dingue, justement. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, qu'est-ce qui fait que spécifiquement, c'est toi qui l'as choisi et c'est ta formation qui l'a choisi plutôt qu'une autre? Parce que Mickaël Aguilar, pour celles et ceux qui le connaissent pas, c'est effectivement un gros influenceur LinkedIn, mais c'est aussi un des pionniers justement des vidéos YouTube, formations autour de la vente en francophonie, qui fait ça depuis 10-15 ans ou plus. Et c'était quand je cherchais justement des formations et des vidéos, quand je me lançais en 2014-2015, des vidéos autour de la vente, c'était les vidéos que j'écoutais. Toi, tu arrives quelques années plus tard avec plein d'énergie, plein d'envie, plein de volonté, mais moins d'expérience forcément que lui, vu aussi la différence d'âge. Et finalement, il suit plein de formations et il se dit « Waouh, ce mec, sa formation, j'ai adoré, j'ai appris des choses, je veux la mettre en avant. » Alors que vous ne connaissiez pas du tout.
Écoute, à l'époque, j'avais un webinar que j'avais, dont j'étais assez fier, que j'ai fait tourner pendant un an. Et ce webinar, c'était, on va dire, ma plus belle réalisation, ma plus belle œuvre. Et Mickaël, en fait, pour rejoindre la formation, il est passé par ce webinar. Et je me rappelle, comme c'était hier, il m'avait envoyé un message que je peux retrouver. Et où il dit quelque chose du style « Écoute, ça fait longtemps que je suis dans la vente et je m'y connais en matière de vente. Mais là, le webinar que je viens de voir, c'était une vraie masterclass et il m'a tiré son chapeau. » Et c'est en fait grâce à ça qu'on a commencé à nouer un petit peu une petite relation presque père-fils. Enfin, moi, Mickaël, aujourd'hui, c'est mon père spirituel dans le business. Et donc, c'est à partir de ce moment bien précis où on a commencé un petit peu à échanger. Et un jour, il m'a fait ce cadeau, parce qu'on ne peut pas dire ça autrement, il m'a fait ce cadeau de me mentionner sur LinkedIn directement. Après, évidemment, j'imagine quand même que s'il le fait, c'est qu'il a aussi kiffé la formation. Donc bon, je pense que c'est un mélange de qualité et d'affection qui fait qu'aujourd'hui, il a fait ce post qui a littéralement changé ma vie au-delà des revenus financiers. C'est surtout ce qu'il m'a montré, quoi. L'opportunité qu'il m'a montré. Il m'a montré que c'était possible de faire des leviers aussi puissants que ça.
Ok, à partir de ce moment, ça crée un déclic où tu te dis, je dois créer une audience, je dois créer une communauté, je dois utiliser les leviers qui permettent de faire la même chose et je veux les maîtriser. Et c'est à ce moment-là que du coup, tu commences à devenir présent sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des blocages qui fait que tu ne l'avais pas fait avant ou pas du tout? C'est juste une prise de conscience et bam, directement, tu démarres.
Écoute, tu sais, j'avais fait partie de ces personnes qui ont toujours procrastiné. Des milliers de fois, je me suis dit, tiens, il faut que je me lance, il faut que j'essaye de faire du contenu. Et bon, à chaque fois, je me foirais lamentablement. Et donc, ce que j'ai fait à un moment, c'est que suite à ce post et à cette publication que Mickaël m'a fait, je me suis obligé, je m'étais mis d'ailleurs dans un cadre un petit peu à l'américaine, tiens, en 2021 ou je ne sais plus quelle date, je m'oblige à faire 365 publications sur LinkedIn. Et l'idée, c'était de vraiment tenir et de m'obliger, de me contraindre, quoi qu'il arrive, j'ai essayé de mettre en place des routines pour le faire. Et même là, je n'ai pas réussi. Et comme je pense 99% des personnes qui créent du contenu, eh ben, au bout de un mois, même pas, j'ai commencé à me dire, bon, allez, aujourd'hui, exceptionnellement, je saute, je le ferai demain. Finalement, demain, le lendemain, je ne l'ai pas fait. Et au fur et à mesure, je me suis écrasé et je n'ai pas réussi à tenir sur LinkedIn. Comme beaucoup de personnes, je pense, qui galèrent aujourd'hui à créer du contenu.
Ok, mais du coup, tu te lances sur LinkedIn, tu galères, tu ne maintiens pas cette cadence, cette rigueur, cette discipline qu'il faut pour persévérer. Et pourtant, aujourd'hui, dans ta thématique, tu es quand même un des mecs en francophonie les plus suivis, avec près d'un million de followers cumulés. On parle de 800 000 personnes, plus de 800 000 personnes cumulées, toute plateforme. Dans cette niche-là, où tu parles de vente, tu parles de stratégie, tu parles de persuasion, tu parles de tous ces éléments qui font ton expertise, à quel moment il y a ce switch et tu te dis « Ok, là, je ne vais pas lâcher cette fois-ci ». Et je vais créer à fond du contenu et je vais réussir à créer cette communauté qui est là aujourd'hui.
Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirants avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi. Maintenant, retour à l'épisode.
Bah, en fait, il y a eu un shift. Moi, j'entendais tout le temps les gens qui me disaient « on peut pas faire ce qu'on veut, on peut pas faire aujourd'hui… » C'est pas parce que tu es obligé de faire des choses que tu n'aimes pas en entrepreneuriat. Tu es obligé au bout d'un moment de faire des choses que tu n'aimes pas. Tu dois faire des publications sur LinkedIn. C'est comme ça, tu dois les faire. Même si tu n'aimes pas, tu dois y aller. Et donc, moi, j'étais resté là-dessus et ça m'avait un petit peu braqué. Et Il y a un truc que j'aime mille fois plus qu'écrire, parce que moi, je suis pas de base quelqu'un qui est, je suis pas un littéraire, quoi. Je suis pas quelqu'un qui a une plume incroyable. Moi, je préfère raconter ma life en vidéo. Je préfère faire en effet des conférences, des choses comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui marche pas super bien pour l'instant. C'est, je vais faire des shorts. J'ai commencé à faire des petites vidéos sur TikTok ou autre. Et ça, j'aimais bien. Je préférais faire des vidéos. Mais j'avais un petit peu l'impression que c'était presque un passe-temps honteux. C'est-à-dire que je passais du temps à faire des publications sur TikTok quand tout le monde pensait que c'était que des filles twerkées qui étaient sur la plateforme. Alors qu'il y avait LinkedIn qui était le réseau pro par excellence. En plus, j'étais positionné sur LinkedIn à l'époque. Donc, j'avais un petit peu l'impression de faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, il y a un gars qui s'appelle Thibaut, je fais une petite dédicace, qui est quelqu'un avec qui j'avais travaillé avec mon agence LinkedIn. Et à l'époque, il travaillait pour une autre boîte, qui a commencé à se lancer sur TikTok. Il voulait lancer une formation. Moi, je l'aidais un petit peu, mais juste en conseil de pote. Et là, le gars, il commence à se lancer sur la niche un petit peu de l'investissement et il cartonne. Il cartonne, il fait plus de 200 000 abonnés en l'espace de 2-3 mois sur TikTok. Et il décide d'essayer de lancer une formation pour voir si ça c'était monétisable. Et là, quand il a lancé sa formation, je crois qu'il a fait entre 45 et 55 000 euros de vente sur un lancement inversé, c'est-à-dire sur une formation qui n'existait pas encore. Et à ce moment-là, Alec, je me suis dit, ah ouais, j'ai une information que personne n'a. Sur TikTok, on peut faire de l'oseille. Sur TikTok, il n'y a pas que des ados, il n'y a pas que des enfants, on peut gagner de l'argent. Et donc, à partir de là, en fait, j'avais un petit peu toutes les planètes qui s'alignaient, c'est-à-dire que j'avais quelque chose que j'aimais faire, des vidéos, contrairement à faire des publications. Et en plus, il y avait une carotte en face parce que je savais qu'on pouvait faire de l'argent avec. Et alors là, à ce moment-là, j'ai commencé à faire une publication par jour. Je me suis obligé à le faire. Et c'est comme ça que finalement, j'ai commencé petit à petit à décoller. Et je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais j'ai eu ce déclic de me dire, c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qui m'anime. Je kiffe le faire. Je pourrais presque le faire si je n'étais pas payé. Presque, j'exagère un petit peu quand même. Et c'est à ce moment où je me suis dit, vas-y, je vais y aller à fond. Et maintenant, ça fait depuis tout ce temps que je fais une vidéo par jour sans m'arrêter.
Ok, c'était il y a combien de temps exactement ?
En même temps que je te le racontais, je pense que ça doit faire 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans, parce que je dois être à 600-700 vidéos depuis. Donc, avec les petits jours les petites fois où ça a sauté malheureusement le créneau, on doit être à, ça doit faire 2 ans, 2 ans et demi.
Ok. Donc, effectivement, aujourd'hui, au moment où on se parle, on est fin octobre 2023, tu as 520 000 abonnés sur TikTok, 4,5 millions de j'aime. Tu as également énormément d'abonnés sur YouTube et sur Instagram. Comment tu as vécu en fait cette croissance ? Est-ce qu'elle a été directement assez violente et qu'ensuite ça s'est un peu stabilisé et autre ? Moi, je le perçois. Le TikTok, je le perçois un petit peu. Il y a eu une phase où tu pouvais gagner énormément d'abonnés très, très rapidement. Et là, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus compliqué depuis, je dirais, à peu près une année. Mais encore une fois, moi, je suis un très, très petit créateur de TikTok. La seule chose que j'ai fait, et je sais que c'est une erreur à 90%, c'est prendre mon contenu de mes Reels et demander à un membre de mon équipe de simplement les publier sur TikTok sans réfléchir forcément à quoi d'autre. Donc, on doit avoir 200 000 ou 300 000 j'aime et 20 000 abonnés, c'est ridicule. Mais ouais, toi, dans ton cas, comment tu as vécu cette croissance ? Est-ce qu'il y a eu des phases ? Comment tu vois aujourd'hui la plateforme pour quelqu'un qui nous écoute et qui se dit « Ah ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, pourquoi pas ? Est-ce que c'est trop tard ? Est-ce qu'il y a encore du potentiel pour moi ?»
Écoute, pour moi, l'opportunité, ce n'est pas TikTok, c'est la vidéo verticale. TikTok, comme toi, je reposte toutes les vidéos dessus, comme je le reposte sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube Shorts, et même, j'ai pour objectif, j'ai commencé à le faire sur Pinterest. Pinterest, personne n'en parle, mais tu peux faire des vidéos verticales. Et donc, en fait, pour moi, l'opportunité, ce n'est pas TikTok, c'est les vidéos verticales. Moi, aujourd'hui, tu me demandes de tège une de toutes mes plateformes, je tège TikTok. La première année de TikTok, ça m'a rapporté du chiffre d'affaires, mais ça m'a rapporté moins de chiffre d'affaires que ce que j'aurais eu si j'étais resté sur mon agence un peu traditionnelle. En fait, c'était très frustrant parce que je sentais qu'il se passait quelque chose, c'est-à-dire que pour la première fois, les gens ils me reconnaissaient dans la rue, les gens m'arrêtaient, me disaient qu'ils me suivaient sur les réseaux. Donc, je sentais qu'il se passait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le monétiser quand même autant que ce que j'espérais, ce que je pensais. Parce qu'en effet, moi, je crois que au début, en effet, comme tu le dis, TikTok explosait complètement. Genre, moi, c'est n'importe quoi. Je crois que j'ai fait une vidéo qui m'a peut-être rapporté 200 000 abonnés en 3 jours.
Wow.
Et pour autant, c'est vraiment des vanity metrics. C'est-à-dire que les abonnés TikTok ne servent quasiment à rien, qu'on se le dise. Aujourd'hui, TikTok, c'est l'une des plateformes où je fais le moins de vues, bizarrement. C'est-à-dire qu'il y a toujours des vidéos qui pètent, il y a toujours des vidéos qui marchent à un moment. Mais globalement, c'est les abonnés TikTok, c'est vraiment juste pour de la fame, quoi. C'est juste de la notoriété. Sinon, c'est juste pour faire stylé sur les présentations. mais aujourd'hui, moi, encore une fois, tu me demandes de tège une de ces plateformes, je tège TikTok. Parce que parfois, tu as de la chance, tu as une vidéo qui explose. Mais bon, c'est quand même pas celles qui sont le plus rentables. Je sais pas toi si de ton expérience, tu as réussi à bien monétiser TikTok. J'ai fait quelques chiffres d'affaires, mais moi, c'est quand même loin d'être une plateforme reine.
C'est une bonne question, mais je dirais oui, j'ai pu monétiser TikTok de manière indirecte pour certaines actions, mais franchement, s'il y en avait une que je devrais également arrêter ou jeter, ce serait celle-ci aussi. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres enjeux, il y a d'autres avantages, ne serait-ce qu'en termes de notoriété, de crédibilité.
Carrément.
Tu vois un créateur qui effectivement a 200 000 ou 1 million d'abonnés sur TikTok. En général, il y a une partie de ces abonnés qui sont déportés sur d'autres plateformes. Du coup, sur les autres plateformes, tu arrives à créer un autre lien avec cette audience. Tu transformes cette audience en communauté. Tu transformes cette communauté en fans. Tu transformes ces fans en clients. Tu transformes ces clients en ambassadeurs. Et là, tu commences à créer vraiment un vrai vivier, un vrai business qui rend la chose beaucoup plus attractive. Et puis, la racine de viralité ou en tout cas d'exposition initiale a été en partie TikTok. Donc, c'est intéressant. Mais pour ma part, encore une fois, j'ai eu un très mauvais usage de cette plateforme et en tout cas un très mauvais non-usage plutôt, vu que je ne l'ai pas utilisé, même je ne suis pas un consommateur du tout de TikTok, je ne l'ai même pas sur mon téléphone.
Pareil.
Donc ouais, c'est vraiment cette notion, et c'est drôle que tu dises pareil, c'est un gros créateur TikTok et pourtant tu ne consommes pas sur TikTok, c'est intéressant et ça en dit long justement sur la typologie de gens qu'il y a là-dessus, le type de contenu qu'il y a là-dedans. Ouais.
Ah mais carrément, mais tu sais, moi, ma grande déception, c'est de ne pas réussir à exploser littéralement sur le YouTube horizontal. Parce que moi, aujourd'hui, tout ce que j'ai appris et tous les contenus que je consomme, c'est sur du YouTube horizontal. Et j'ai envie de dire, comme les bons dealers, je ne mange pas la cam que je vends. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, en effet, je suis très... je regarde quasiment pas de vidéos TikTok. Je regarde quasiment pas de Reels. Je suis plus, moi, sur de la veille quand j'utilise les réseaux. Je me suis perdu, comme tout le monde, sur des vidéos de chiens et de chats quand tu te perds un peu sur TikTok. Mais globalement, moi, c'est pas du tout une plateforme où je passe énormément de temps. Alors, encore une fois, hormis pour faire un petit peu de veille, mais c'est de moins en moins moi qui le fais. Et par contre, moi, je suis plus de base sur du YouTube horizontal en termes de consommation.
Ouais. On va revenir après sur la création de contenu au global, mais j'ai envie qu'on développe un petit peu cet axe sur ta maîtrise justement de la création de contenu. T'en as fait aujourd'hui ton expertise et ton métier, t'as une agence où tu aides les gens à utiliser les réseaux sociaux et différents leviers pour développer leur chiffre d'affaires, pour monétiser plus et puis mettre à profit ton expertise globale sur la vente pour les aider à se développer. Comment tu détermines, ça c'est une vraie question que la plupart des gens me posent, que ce soit dans nos programmes ou même les gens qui nous suivent, sur quelle plateforme se positionner, quelle est la plateforme la plus adaptée à ton type d'entreprise ou à ton service spécifique quand tu as envie de te lancer sur les réseaux sociaux.
Alors, je vais donner un conseil qui n'est peut-être pas celui auquel on pense en premier, mais aujourd'hui, vu que la création de contenu, c'est vraiment du long terme, que c'est un marathon, qu'il faut le faire tous les jours parce que c'est si on le fait parce qu'on doit le faire, on n'y arrivera jamais. Là, pour moi, le plus important, c'est de trouver un format qu'on kiffe. c'est trouver un format qu'on va prendre plaisir à faire, parce que quand on va se prendre les commentaires haineux de Jackie Gilet Jaune qui nous traite d'enflure de capitalistes, il faut qu'on aime ce qu'on est en train de produire pour résister, pour avoir cette hargne, ce feu qui nous donne envie de continuer tous les jours. Quand les vidéos vont bider alors qu'on a passé je ne sais combien de temps à les tourner, il faut aimer ça, il n'y a pas d'autre moyen. Donc aujourd'hui, peu importe ce que la cible qu'on a, quand on voit le nombre de millions, enfin pour pas dire les milliards d'utilisateurs des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ou autres, peu importe sur quelle plateforme on publie, on finira par toucher nos clients. Moi, je me rappelle que l'une des premières vidéos TikTok qui a bien marché, j'avais mis un Calendly pour proposer aux gens de réserver un appel. Je m'étais dit, tiens, ça va être que des étudiants. Et je me rappelle encore d'avoir mon premier Calendly. Déjà, c'était un Philippe. Donc, je me dis, ah ouais, Philippe, c'est pas non plus un étudiant, je pense. Et ce qui était super drôle, c'est que quand j'allume la caméra, je vois en fait que c'est un patron d'entreprise de 55 ans qui m'a connu sur TikTok. Et donc, c'est là où je me suis dit que même aujourd'hui, cette typologie de clients, elle est présente sur TikTok. Donc, n'importe qui aujourd'hui, peu importe le réseau qu'il va utiliser, finira par toucher ses clients, sauf évidemment si on essaye de cibler des bergers sur LinkedIn, ça n'a pas marché. Mais globalement, si on fait des vidéos notamment verticales ou même des vidéos YouTube, on finira par trouver nos clients. Donc l'idée, c'est de trouver un format qui nous plaît, un format qu'on va être capable de faire longtemps. Et une fois qu'on a trouvé ça, c'est ce que je te disais en début d'appel, avant qu'on commence à être en live, à partir du moment où on a trouvé un clou et qu'on réussit à taper dessus tous les jours, et ben au bout d'un moment, ça va marcher. Au bout d'un moment, c'est vraiment, ça va fonctionner. Donc pour ça, il faut trouver un format qu'on est prêt à répéter souvent.
Ouais, je te rejoins, c'est hyper important et tu mets le doigt sur quelque chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, et pendant longtemps même, j'étais de ceux qui donnaient ce conseil, allez sur la plateforme là où est votre prospect. Je le pense encore, mais je cumule maintenant ce conseil à aller où la plateforme, où est votre prospect et où vous allez prendre du plaisir à le faire, parce que les résultats, vous n'allez pas tout de suite les avoir. Et une fois qu'on a identifié justement cette plateforme, toi, avec ton expérience et maîtrisant aujourd'hui plutôt bien les codes des réseaux sociaux, quelles sont les différentes erreurs courantes que tu observes chez les entrepreneurs lorsqu'ils abordent les réseaux sociaux pour la première fois ?
Alors, tu sais, il y a cette phrase d'Aurel San, je crois, qui dit « Écoute tout ce que la conseillère d'orientation te dit de ne pas faire et fais-le. » Et ben moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que au début, quand je me suis lancé, on me dit « Oh ben tiens, tu parles trop vite. On dirait un présentateur télé quand tu parles. » Et donc, tu sais, ils m'achetaient le « Comment parler en public pour les nuls ?» Et on me disait, en effet, de parler doucement, de faire des respirations, etc. Quand j'ai fait ça, je bidais complètement. Et depuis que j'ai laissé le naturel revenir au galop, et que je parle vite, et que je parle fort, et que je raconte ma life, et ben là, en fait, les gens se rappellent de moi comme le mec qui parle vite, comme le mec qui a des intonations qui partent dans tous les sens. Et donc, en fait, oui, il faut suivre ce qui marche, mais il ne faut pas avoir peur de laisser aussi ces singularités prendre le dessus. C'est vachement important, ça. Il ne faut pas avoir peur de... Moi, les publications qui ont le mieux marché, ces publications, j'ai une petite boule au ventre avant de la publier, où je me disais, waouh, là, je ne sais pas comment ça va être reçu. Et forcément, c'est là où, en effet, c'est là où ça marchait le mieux. Donc, il faut suivre, évidemment, il faut apprendre à pisser dans le sens du vent aussi. Il faut voir ce qui marche et faire pareil. Mais il ne faut pas avoir peur de laisser ces singularités prendre le dessus.
Tu peux développer ce point-là, la petite boule au ventre avant de le publier, parce que cette boule au ventre, la plupart des gens l'ont, même parfois pour du contenu qui est complètement, basique, standard et lisse, juste par le simple fait de publier quelque chose, d'avoir peur du regard des autres. Donc ça, c'est une étape, j'ai envie de dire, qui est normale et qui concerne beaucoup de gens. On va en parler après, ça, de réussir à faire ce premier pas et puis de faire face au regard des autres. Mais dans ton cas, j'imagine que c'est aussi cette conscience du fait de se dire « Ok, là, j'ose affirmer mes convictions, carrément, mes croyances, dire tout haut ce que je pense, être clivant et peut-être m'exposer à de la haine, à des haters, à des gens qui ne sont pas d'accord. Et justement, est-ce que tu as un truc à nous partager sur ces publications où tu as cette petite boule au ventre ? Parce que c'est souvent ces publications qui marchent le mieux, finalement.
Mais carrément. Tu sais, au début, quand je faisais une publication… je faisais mon script et je me disais, ah ouais, mais si je le dis comme ça, il y en a qui vont penser ça. Et donc, je gommais un petit peu cette partie de mon script. Ensuite, je me disais, ah ouais, mais il y a peut-être des gens qui vont me dire que ça, c'est pas vrai parce que X. Et alors, je gommais un peu le script. Et en fait, du coup, ça faisait un script complètement pourri qui intéressait personne parce qu'en effet, il y a personne qui réagissait là-dessus. Aujourd'hui, à l'inverse, c'est ce que je recherche à mettre en avant. En fait, il y a même une petite règle que j'aime bien faire, c'est je réfléchis aux haters qui me détestent le plus et je fais en sorte que ma publication les énerve le plus possible. Et donc, en fait, plutôt que d'avoir un persona pour les gens que j'ai envie de toucher, j'ai aussi un persona pour les gens que j'ai pas envie de toucher, que j'ai envie d'énerver. Et le fait de faire ça, ça met en fait les publications sous stéroïdes et c'est là où les publications cartonnent le plus. Et moi, c'est un petit peu l'un de mes mantras maintenant, c'est vraiment d'essayer de faire quelque chose où en effet, j'ai cette petite boule au ventre où je me dis « Waouh !» Là, quand je vais le poster, je vais mettre mon portable en mode avion et je vais regarder seulement dans une heure les commentaires, sinon je vais les supprimer un par un. Et c'est là, en fait, où ça marche. C'est là où les publications, elles commencent vraiment à exploser.
Ouais, ouais. Et c'est hyper intéressant. Et justement, on parle souvent de réussir à être authentique, ou on parle souvent de la puissance du storytelling dans nos stratégies. Et ça touche tout le monde, hein, que ce soit les individuels comme les entreprises. Notamment pour humaniser le contenu, pour créer du lien, pour permettre aux gens de s'identifier. Toi, aujourd'hui, dans ta stratégie globale, pour engager et finalement aussi pour croître et convertir par la suite, comment tu utilises le storytelling? Comment tu utilises cette authenticité? Est-ce que c'est l'ADN complet de toute ta création de contenu? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment très réfléchi et t'as, tout comme une culture d'entreprise, enfin tout comme dans une entreprise, tu vas poser ta culture d'entreprise et du coup, c'est très théorisé. Même s'il y a cet ADN qui a été posé et réfléchi en amont, c'est quoi ta vision de la chose pour pouvoir la retranscrire à celles et ceux qui nous écoutent et qui puissent l'appliquer aussi à leur création de contenu?
Écoute, j'essaie de te le formuler d'une façon stylée, mais ça va être d'une banalité terrible, mais d'une vérité folle, comme on dit. C'est qu'il faut être authentique, il faut être soi. Aujourd'hui, à partir du moment où on montre aussi nos vulnérabilités, on montre aussi potentiellement nos défauts, c'est à ce moment bien précis qu'on va créer des connexions avec les gens de l'audience et on va pas être l'un parmi ces dizaines d'autres personnes qui essayent de se présenter comme un entrepreneur à succès ou autre. Quand on partage aussi ses échecs, ses craintes, ses doutes, bah c'est là en fait où on va commencer aussi à fidéliser une audience et les gens vont se retrouver. Moi, il y a un truc que je faisais pas trop et que je fais de plus en plus, c'est de parler vraiment aussi même de ceux qui m'entourent. Exemple, moi maintenant, j'entreprends l'une de mes plus grandes fiertés, c'est de taffer avec ma copine. Et avant, je voulais surtout pas commencer à parler de ma copine, j'avais trop peur de l'exposer à l'audience. Et en fait, maintenant, j'adore faire ça. Et c'est marrant parce que quand il y a des gens qui me croisent dans la rue, ils la connaissent tous. Tout le monde me parle d'elle. Les gens se rappellent plus de ces vidéos plutôt que d'un énième conseil marketing. Et donc, en fait, le fait d'être authentique, bizarrement, de raconter sa vie, eh ben, ça intéresse pas mal les gens. Et donc, de plus en plus, moi, j'essaye d'être... C'est encore une fois, c'est d'une terrible banalité, mais j'essaye d'être le plus authentique possible et de vraiment partager ce que je ressens, de donner mon avis. Et même les trucs qui, de base... j'ai l'impression d'être bizarre en les disant, et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de personnes qui sont d'accord avec moi. Et c'est ça, en fait, qui crée la singularité et qui fait que les gens se rappellent de nous.
Tu parles de travailler avec ta copine, du coup. C'est assez intéressant, ce sujet. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle a créé aussi son propre personal branding et ses propres réseaux? Est-ce qu'elle intervient directement dans tes contenus? J'ai vu en regardant un petit peu tes contenus que c'était le cas, mais est-ce qu'il y a aussi une dimension dans laquelle elle a créé sa propre visibilité en parallèle de façon complémentaire à la tienne ou de manière complètement décorrélée? Ça peut être intéressant parce que finalement, ouais. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et j'imagine qu'il y a des gens aussi qui sont influencés positivement, en l'occurrence ici, par les gens qui les entourent et peut-être qui se disent « Ah tiens, je pourrais faire comme ça, comme si, etc. » Et ça peut être intéressant. Et il y a aussi cette dimension, travailler avec la personne qui partage sa vie, ce n'est pas forcément simple, il y a des hauts, il y a des bas. Du coup, avoir ce sujet.
Carrément. Tu sais, en fait, alors déjà, ma copine, je lui dois peut-être le fait que je me sois lancé en entrepreneuriat parce que la date de création de ma première boîte coïncide aussi avec la date où on s'est mis ensemble. Et en fait, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de choses par ego. J'avais fait une publication là-dessus où j'explique que moi, j'ai pas eu une enfance compliquée, même une enfance, j'avais des parents qui m'aimaient, qui m'offraient tout ce que je voulais à Noël, j'ai jamais manqué de rien, j'ai jamais eu besoin de me lever, d'aller faire des jobs étudiants pour partir en vacances ou autre, donc j'ai eu une enfance plutôt facile, et malgré tout, j'ai eu cet ego qui m'a poussé à faire pas mal de choses, et cet ego, par exemple, quand j'ai commencé à mettre avec ma copine, qu'elle voyait que j'étais une chèvre mais gigantesque à l'école et qu'elle au contraire était super forte, j'avais envie de lui montrer quand même que j'étais pas un bon à rien, et donc du coup ça m'a poussé à monter ma boîte et à me lancer. Donc déjà je lui dois pas mal de choses sur ça, c'est elle qui m'a un peu aidé, m'a motivé à lancer ma boîte. Et ensuite quand ma boîte a commencé à bien marcher, je voyais tout ce qu'on pouvait faire, je voyais le fait que j'étais libre géographiquement, qu'on pouvait partir un petit peu partout. Et à un moment, finalement, j'ai dit, non, est-ce que tu veux pas quitter ta boîte et travailler avec moi ? C'est toujours casse-gueule de se dire ça. Et en fait, finalement, elle a quitté sa boîte et aujourd'hui, elle est responsable de projet. C'est mon bras droit. C'est mon bras droit, elle fait tout. On a énormément de chance parce que moi, je suis plus sur la créativité et elle est plus sur l'organisation très stricte. Et donc du coup on est vachement complémentaires et ça nous permet de vivre des trucs de dingue. On part 3 mois à l'étranger, en Thaïlande, à Bali, au Vietnam, à Dubaï. Ça nous permet vraiment d'être hyper mobile et c'est un des plus beaux accomplissements, tu vois, aujourd'hui que j'ai. Et je me dis, si ça s'arrête maintenant tout ce qu'on a fait, quoi qu'il arrive on aura kiffé, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est intéressant, c'est une belle philosophie et finalement, tu t'es drivé par la liberté et tu as réussi à l'atteindre grâce à tout ça. Justement, en parlant de liberté, c'est un peu la quête que la plupart des entrepreneurs ont. Hein. Finalement, s'ils sont là, s'ils écoutent ce podcast, c'est qu'ils ont envie d'entreprendre, c'est qu'ils ont envie d'être libre, c'est qu'ils ont envie d'avoir des clients. S'ils écoutent celui-ci spécifiquement, c'est qu'ils ont vu dans le titre, la headline, ou alors ils te connaissent déjà, mais ils ont vu en tout cas qu'on pouvait, grâce aux réseaux sociaux, avoir des clients, créer une audience, etc. Aujourd'hui, tu as changé un petit peu ton positionnement parce que justement, il y a des upsides au fait d'être très visible, mais il y a aussi des downsides, c'est que finalement, tu attires un petit peu tout le monde. On va y revenir sur ce sujet dans quelques instants, mais avant ça, pendant longtemps, tu aidais les gens à obtenir des clients, notamment via LinkedIn, sans forcément dépenser d'argent dans les publicités, c'est-à-dire se positionner comme un expert, créer un système d'attraction, aller faire de la prospection, réussir à générer des rendez-vous, etc. Finalement, ce que la plupart des gens essaient de faire sur LinkedIn, mais ce que beaucoup, malheureusement, n'arrivent pas. Il y a beaucoup de conseils sur ce sujet, mais il y en a très peu qui fonctionnent, ou alors quasiment tout le monde essaie de se battre avec les mêmes armes qu'il ne maîtrise que peu sur ce réseau, sur ce marché, et tu te retrouves avec des dizaines de milliers de demandes d'ajout d'invitation, des demandes de contact par centaines chaque semaine, et puis des DM qui, c'est limite le jeu des 7 familles, trouver l'erreur, parce qu'ils sont quasiment tous les mêmes. Et ça c'est une réalité aujourd'hui sur le marché global de LinkedIn et de Leadbound. Aujourd'hui toi, si tu devais là nous délivrer une mini masterclass en quelques conseils, en 5 minutes, en 10 minutes, peu importe, sur justement comment utiliser que ce soit LinkedIn ou les réseaux sociaux à bon escient pour justement réussir à aller générer des prospects, aller générer des calls qualifiés, aller générer du deal, du chiffre d'affaires, sans pour autant devoir dépenser un seul euro en publicité. Qu'est-ce que tu recommanderais ? Quel serait ton framework en quelques étapes que tu partagerais à celles et ceux qui nous écoutent ?
Écoute, moi, quand j'ai commencé à accompagner les gens sur LinkedIn, j'avais de la chance parce que les outils d'automatisation n'existaient pas tant que ça, en fait. Pour ceux qui connaissent, j'utilisais LinkTelper, ça a été un petit peu le grand-père des logiciels d'automatisation. Et en fait, j'avais cette chance,
ouais, ça date,
aujourd'hui, que les gens n'avaient pas tant l'habitude que ça de cliquer, de recevoir des messages automatisés. Donc directement, quand j'ai commencé, quand ils en recevaient pour la première fois, ça marchait mieux qu'aujourd'hui. Après, moi, j'avais un mantra, une phrase que si je pouvais, je me tatouerais sur le bras. C'est les gens ne cliquent jamais sur une publicité, ils cliquent sur ce qui les intéresse et parfois c'est une publicité. Sous-entendant, aujourd'hui en effet on reçoit tous des pubs dans la gueule, on reçoit tous des messages. La clé C'est juste de réussir à faire quelque chose qui intéresse. Et même si c'est un message automatisé parmi tant d'autres, à partir du moment où il est positionné sur quelque chose qui plaît aux gens et quelque chose qui répond à un vrai problème, tu peux être sûr à 100% que ça marchera. Aujourd'hui, si j'invente le médicament pour le sida, je peux l'envoyer par une méthode ultra bouchée comme des flyers dans les boîtes aux lettres. À partir du moment où ça intéresse les gens et j'arrive à le mettre en face des bonnes personnes, bah, les gens prendront le flyers et les gens m'appelleront. Donc, c'est un peu ce qu'on dit souvent, c'est que les gens aujourd'hui, il faut travailler l'offre, c'est ce qui est le plus important. Et les canaux marketing qui vont propulser ensuite le message qu'on a envie de partager, eh ben, ils auront un peu plus d'efficacité, mais le principal, c'est ce qu'on envoie à la base. Donc moi, je me dirais ça, vraiment se concentrer sur ce qu'on envoie, et si ce qu'on envoie est envoyé aux bonnes personnes et que les gens ont vraiment envie de cliquer, que c'est vraiment de la valeur, eh ben, les gens y cliqueront. Donc moi, je me serais obsédé à l'idée de me dire qu'est-ce qui va faire cliquer les gens vraiment.
Ok, ouais. Et une fois qu'ils ont cliqué, le travail s'arrête ici ou... Parce que tu vois, dans ma vision, pour moi, la conversion, elle commence dès l'écriture et la lecture de la première ligne de la publication. Et jusqu'à la dernière phrase que tu as lorsque tu conclus l'avance.
Bien sûr.
Comment tu vois la chose ?
Écoute, il y a beaucoup de personnes qui essayent de réinventer la roue. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de méthodes qui sont éprouvées, qui marchent depuis longtemps. Tous les webinars, tous les VSL, toutes ces techniques où encore une fois, on donne avant de demander. C'est vieux comme le monde, mais aujourd'hui, ça marche. Je ne sais pas, toi, quels sont tes canaux d'acquisition. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est encore du webinar. C'est un truc que j'utilise depuis 5-6 ans où j'essaye d'éveiller la curiosité des gens sur les réseaux, sur LinkedIn ou autre. Et à partir du moment où ces personnes ont envie d'aller plus loin, je vais les rediriger en effet vers un webinar. C'est ce qui a par exemple permis à Michael Aguilar de rentrer en contact avec moi. Et de mémoire, je l'ai contacté exactement comme ça avec un message automatisé. Et donc, tu vois, c'est grâce à ça, c'est grâce à ce process où j'allume la mèche sur les réseaux. Ensuite, hop, je le sors le plus rapidement possible de la plateforme, que ce soit LinkedIn, TikTok ou autre. J'essaye directement de le sortir, de le foutre sur un webinar, sur un challenge, sur une VSL, sur quelque chose qui va lui apporter de la valeur. Et à la fin, en fonction de l'offre, soit je chope au téléphone pour le closer, soit je lui propose directement de souscrire selon le prix du produit et le format du produit que je vends.
Ok, je vois. Tu disais tout à l'heure, le but, c'était de créer un clic. Aujourd'hui, toi, tu produis énormément de contenu. Pour produire un clic, il faut quand même que le sujet résonne le plus auprès de ta communauté, de ton audience. Comment tu fais justement pour identifier quels sont les sujets ou les contenus que tu vas créer? Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas combien de vidéos tu as fait, mais tu as fait des centaines, si ce n'est des milliers de vidéos jusqu'ici. Peut-être que tu as fait le tour. Comment tu fais pour te renouveler tout en faisant en sorte de créer du contenu qui va générer justement ce clic, générer cette attention?
Écoute, c'est très compliqué d'éternellement se renouveler. Je crois que je te l'ai dit aussi au début du podcast, il y a une phrase que j'adore, c'est « il faut apprendre à pisser dans le sens du vent ». Le gros avantage pour moi des réseaux, c'est que tu vas faire 10 contenus, tu vas voir ce qui fonctionne. Et donc en fait, un petit peu comme une sélection naturelle, tu vas faire 10 sujets, tu vas voir sur les 10 sujets quels sont les deux qui ont le mieux marché, tu vas leur faire des petits, et c'est ces deux sujets qui ensuite vont te donner un petit peu d'idées pour faire les autres. Après, aujourd'hui, c'est l'une des plus grosses complexités, et c'est de réussir en effet à se renouveler. Moi, en plus, je suis dans un format qui est toujours très standard. J'ai déjà essayé, enfin, c'est dans le pipe d'essayer de se renouveler, mais c'est, pour moi, il faut faire très attention de ne pas tuer quelque chose qui marche, mais évidemment, d'avoir deux coups d'avance. Chaque vidéo, je me dis, putain, à un moment, les gens, ils vont en avoir ras le cul de voir toujours ma gueule dans leur fil d'actualité. Et donc, en effet, tu vois, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien aller sur YouTube horizontal pour vraiment changer de format, pour essayer de faire des choses un petit peu différentes. Mais pour trouver toujours des contenus à faire, déjà, moi, j'essaye de continuer à tester, à lire. Et après, c'est un petit peu le build-in public. Le build-in public, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment de raconter aujourd'hui en direct tous les concepts qu'on a appris, tous les apprentissages qu'on a rencontrés sur notre chemin. Et c'est ça, en fait, moi, chaque fois que je me dis, tiens, de quoi je peux parler aujourd'hui, j'essaye de voir cette semaine qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait en termes d'échecs, qu'est-ce que j'ai bien fait. Tiens, j'ai eu un appel de vente. Quelles sont les techniques que j'ai mises en place aujourd'hui qui, pour essayer de le convaincre, de le closer. Et en fonction de ça, et ben, ça, petit à petit, je commence à avoir des pistes, des idées de vidéos. Et souvent, je fais un petit puzzle dans ma tête en mode, tiens, il y a un concept là que j'ai envie de présenter, mais si je le balance de façon très brute, ça va pas plaire. Donc tiens, ça me fait penser à une histoire, et donc la vidéo naît comme ça. Je raconte l'histoire, et c'est l'histoire qui apporte le concept.
Ok, je vois. Et c'est assez intéressant justement de voir comment tu structures et réfléchis ce concept, et le fameux building public, c'est de plus en plus commun. Et au fur et à mesure du temps, quand tu crées beaucoup de contenu, tu mets du building public, tu es transparent, tu es authentique, tu partages tes succès, tes réussites, tu partages comment tu as closé tel deal, etc. Il y a une question qui m'a souvent été posée, une réflexion que je me suis souvent fait également à l'époque quand je créais un certain type de contenu, c'est comment équilibres-tu les choses entre offrir de la valeur gratuitement sur tes réseaux sociaux qui te permet de créer du contenu qui est quand même intéressant, captivant, qui apporte de la valeur, et finalement, convertir ses clients vers ton offre ou ton produit. Dit différemment, pourquoi les gens iraient acheter mon offre si je leur ai déjà tout donné gratuitement?
Alors, c'est au début, moi, c'est quelque chose qui me faisait très peur. Et en fait, je suis vite allé plus loin que ça, c'est-à-dire que quand je vois déjà dans une formation en ligne comme on doit rentrer dans les détails pour vraiment inculquer des choses aux gens, pour vraiment leur apprendre, pour vraiment les transformer. Je sais que de toute façon, en une vidéo d'une minute, ils n'en auront pas suffisamment pour le faire tout seul. Et en fait, pour moi, c'est la grosse différence entre du pitching et du teaching. Quand on fait même une conférence, un webinar, quand on a envie d'attirer l'attention des gens, il ne faut pas leur faire une formation. Il faut leur faire du pitching. Il faut leur montrer une opportunité, leur montrer un concept. Après, s'ils veulent apprendre à la maîtriser, s'ils veulent apprendre à l'appliquer, bah là, ils devront aller sur le contenu un peu plus payant. Mais de base, sur tout ce qui est en effet contenu gratuit, là, c'est moi, je réfléchis vraiment en mode, tiens, je leur expose l'opportunité, mais par contre, évidemment, s'ils veulent savoir comment l'appliquer, s'ils veulent copier-coller la méthode, bah là, ils doivent aller plus loin, ils doivent acheter mes formations, ils doivent m'appeler.
Ok. Ah, c'est intéressant, et du coup la question c'est aussi de se dire qu'est-ce qui t'a fait perdre cette croyance de c'est dangereux, dans le sens où tu me disais, moi aussi je me posais cette question au départ lorsque j'ai démarré, et il y a beaucoup de gens qui justement ça les bloque dans la création de contenu. Je te rejoins, j'ai un élément de réponse qui est similaire mais aussi différent, c'est-à-dire que à un moment donné, même si tu donnes énormément de valeur, je vais aller plus loin, hein, je vais te dire demain, imaginons ton expertise, c'était Facebook Ads. Tu sors une vidéo de 1 heure, 2 heures ou 3 heures sur YouTube qui explique exactement comment créer des campagnes Facebook Ads performantes, les optimiser, etc. Tu arriveras de toute façon quand même à capter l'attention, capter des prospects, capter des emails et potentiellement leur vendre un module plus poussé. Parce que je pars du principe que les gens, tu donnes pour recevoir et ils voient ton expertise, c'est l'exposition concrète et factuelle de ton expertise et ils ont envie d'aller plus loin. Dans ton cas, c'est à quel moment que tu as eu ce déclic où tu t'es dit, en fait, je peux partager 2000 vidéos de contenu, je continuerai quand même à vendre mes formations, mes conseils.
Alors, j'ai eu deux déclics sur ça. Le premier, c'est qu'en fait, c'est bizarre, mais les contenus les plus poussés qui, selon moi, apportaient le plus de valeur sont ceux qui faisaient le moins de vues. Parce que c'était trop complexe, ça demandait trop aux gens de réfléchir. Et en tout cas, sur les réseaux sur les réseaux tels que TikTok ou Instagram Reels, on doit aller sur vraiment l'essentiel. Tu sais, moi, j'ai un format qui marche super bien. C'est si jamais un client vous dit X, répondez-lui Y. Si vous dit je dois réfléchir, répondez ça. Si vous dit je dois en parler à ma femme, répondez ça. Et c'est marrant parce que, ça, c'est pas parce que tu sais quoi répondre à un client qui te dit je dois y réfléchir que tu sais vendre. C'est la philosophie derrière que tu dois comprendre. Mais quand je parle de la philosophie derrière, les gens s'en foutent. Ils veulent absolument la petite vidéo avec « s'il me dit X, qu'est-ce que je réponds ?» Et en fait, du coup, c'est marrant parce que je me suis rendu compte que ça, c'était fantastique, mais de toute façon, les gens allaient se rendre compte que ça ne suffisait pas. Et en effet, les gens se sont rendus compte que ça ne suffisait pas. Ils trouvaient l'astuce intéressante. ils l'appliquaient, mais c'est pas pour autant qu'ils avaient décuplé leur taux de conversion en vente. Et donc là, ils m'appelaient. Et là, en effet, c'est là où j'ai compris. Je me suis dit, bon, de toute façon, si je rentre dans les détails, ça fait chier les gens. Il faut juste que je les titille. Et c'est comme ça que ça leur donnera envie d'en savoir plus. Le deuxième déclic que j'ai eu, aujourd'hui, moi, je vends des formations en ligne. Et ça m'a fait rire parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un gars qui a acheté ma formation en ligne. Il a acheté pour toutes ses équipes. Et toutes ses équipes l'ont adoré. Et il est revenu me voir en disant, Bastien, est-ce que tu peux venir en physique pour nous faire la formation? Je dis, oui, si tu veux, mais tu es au courant que je vais te dire exactement la même chose qu'il y a en vidéo. Hein. Il me dit, oui, mais ça sera bien, comme ça tu pourras répondre à nos questions ou autres. Donc, même avec toute la formation en vidéo, les gens avaient quand même besoin que je vienne. C'est-à-dire que c'est une chose de le donner en vidéo, c'est une chose de le partager, mais ensuite pour l'apprendre ou autre, les gens ont quand même besoin que tu sois là physiquement pour leur apprendre, pour les rassurer, pour leur poser des questions, pour leur faire faire des exercices. Donc, je me suis rendu compte que de toute façon, la formule secrète, tu le sais très bien, j'en doute pas, elle n'existe pas aujourd'hui. La formule secrète, c'est de travailler, c'est d'y aller. Ce n'est pas en partageant les tactiques que les gens en face directement vont avoir matière pour ne pas avoir besoin de toi.
Mmh. Ouais, complètement, je te rejoins. Et tu as donné un élément de réponse là dans ton propos il y a quelques instants, mais j'ai pu regarder un petit peu ce que tu fais. Et effectivement, tu disais dans cet épisode, aujourd'hui, je suis vraiment sur le contenu vertical au global, donc que ce soit les shorts, les reels ou sur TikTok. Et ça fait maintenant 3 mois que tu as arrêté de publier sur ta chaîne YouTube du contenu horizontal. Pourtant, tu as quand même 125 000 abonnés sur YouTube, 643 vidéos publiées, j'imagine majoritairement des shorts, mais tu as quand même énormément aussi de vidéos, plusieurs dizaines de vidéos horizontales, pardon. Et ce sont des vidéos horizontales qui vont durer de 7 minutes à 1h30 quand même. Et à chaque fois, elles sont réfléchies, elles sont bien montées, elles sont structurées, elles sont réfléchies aussi en termes de miniatures et de titres. Pourtant, effectivement, elles cumulent pour certaines pas énormément de vues. On parle de typiquement une analyse où tu expliques le lancement orchestré de mastermind.com où ils font 38 millions de dollars en 2 heures. J'imagine que cette vidéo est très pertinente et apporte beaucoup de valeur. Elle fait 1800 vues. Donc, c'est intéressant hein, d'avoir cette vision. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, tu as complètement arrêté la création de contenu horizontal pour ne te dédier qu'à la création de contenu vertical?
Écoute, c'est pas un choix volontaire, c'est-à-dire que en réalité, j'ai commencé vraiment le YouTube horizontal sérieusement au début de cette année 2023. Et l'idée, c'était de faire une publication par semaine jusqu'à la fin de cette année. Et alors, au début, ça a été terrible de dire, putain, toute l'énergie que je fournis pour me taper une vidéo où je suis content quand elle dépasse les 5000 vues, ça m'embête un petit peu pour être poli, parce qu'en effet, c'est ce que je fais x10 tous les jours avec beaucoup moins d'efforts sur les vidéos verticales. Et en fait, je m'étais quand même obligé à tenir parce que je sais qu'à un moment donné, ça peut péter sans raison. Et donc, je voulais m'accrocher. Et alors, la première douche froide, c'était que les abonnés que tu as sur YouTube, en YouTube Short, en fait, ils sont carrément dissociés du YouTube horizontal. C'est-à-dire que les 125 ou 126 000 abonnés que j'ai sur YouTube aujourd'hui, en fait, en réalité, je les ai sur YouTube Short. J'ai eu très peu d'abonnés qui sont venus. Je pense que je dois avoir moins de 5000 abonnés qui sont arrivés suite aux vidéos horizontales. Et donc, c'était un premier coup dur. C'est-à-dire qu'en effet, les gens, j'espérais que YouTube Short soit un raccourci pour YouTube horizontal. Mais en fait, pas du tout. Malheureusement, je suis dans la même tambouille que tout le monde. Il faut que je fasse des bonnes vidéos qui plaisent et qui marchent. Et le problème, c'est que quand j'ai vu que ça marchait pas trop, et qu'à un moment, je devais faire des lancements de formation, quand j'ai dû sacrifier, parce que je n'avais pas le temps de tout faire, j'ai sacrifié les vidéos horizontales pour l'instant. Mais là, récemment, tu vois, c'est marrant parce que j'ai vu un petit peu la valeur quand même de YouTube horizontal, parce que des vidéos que j'avais fait il y a 6 mois, qui avaient 5000 vues, elles ont commencé doucement, mais sûrement un petit peu à prendre. Et là, tu vois, j'en ai une qui a fait 30 000, une qui a fait 12 000, une qui a fait, pareil, un peu plus de 10 000 vues. Ce n'est pas encore incroyable. Mais du coup, je vois quand même le potentiel et surtout, je vois que c'est très exponentiel. C'est-à-dire que jour après jour, elle commence à prendre des vues. Et donc, il faut juste que j'y aille, en fait. Je n'ai pas fait le choix de partir de YouTube horizontal. Mon choix, au contraire, c'est d'essayer de conquérir YouTube horizontal. Mais ce n'est pas les mêmes codes que les YouTube Shorts. Et donc, l'idée, ça va être d'y aller encore un peu progressivement. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, Alec. Je vais attaquer YouTube horizontal et je vais tout démonter, j'espère.
Bah, je te le souhaite. Je te le souhaite vraiment. Après, si je peux te partager un petit insight qui est mon analyse personnelle, mais qui est partagé par beaucoup de créateurs de contenu. Et là, du coup, le but, c'est de partager aussi ça avec celles et ceux qui nous écoutent. C'est, j'ai pas compris pourquoi les trois dernières vidéos du déclic avant la vidéo qui vient de sortir et qui a fait près de 40 000 vues ou 35 000 vues dès les premières 24 heures, mais qui est un peu spéciale avec une line-up d'invités assez hors du commun et plutôt chouette pour les 1 an du déclic.
Les Avengers.
D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu, ouais, on a réuni les Avengers, c'est assez cool. En tout cas, si vous n'avez pas encore vu cet épisode, vu qu'il vient de sortir et qu'au moment où on tourne cet épisode, l'audio va sortir dans juste quelques jours. Mais tu vois, pour te donner un ordre d'idée, on sort l'épisode avec Sokona aujourd'hui, cumule 38 000 vues. On sort l'épisode avec Peter, 22 000 vues, alors que Peter n'a pas d'audience, n'est pas du tout connu. On sort l'épisode avec Antoine, 34 000 vues. On sort l'épisode avec Ethan, actuellement, c'était il y a un mois, il est à 140 000 vues.
Énorme.
Donc c'est assez énorme. Et là, en fait, il y a dû se passer un truc dans l'algorithme de la chaîne et je me suis rendu compte que c'était à cause des shorts en partie. Et là, les trois vidéos d'après, on a après trois semaines seulement 8500 vues. Celle d'il y a deux semaines, 4200 vues. Et celle d'il y a une semaine, alors qu'on parle d'un des youtubeurs les plus connus en France dans sa catégorie pour un sujet qui plaît aux entrepreneurs, qui est les montres, avec un titre qui est assez putaclic, une miniature qui l'est également, on n'a que 10 000 vues. Et en fait, il s'est avéré que selon certaines analyses et observations de pas mal de créateurs de contenu, le fait de publier des shorts sur ta chaîne attire une population d'abonnés qui est complètement différente, qui consomme différemment et donne un signal à ta chaîne qui fait qu'ils vont moins mettre en avant les vidéos longues si elles ne répondent pas à certains critères dès la publication. Et le truc, c'est que la consommation d'un podcast long tel que le déclic versus des shorts de seulement quelques secondes est complètement différente. Et donc, ça a plombé le référencement et la mise en avant, la recommandation de l'algorithme de nos précédentes vidéos. Et du coup, dès que j'ai observé ça, j'ai dit aux équipes d'arrêter complètement de publier des shorts sur la chaîne. On a supprimé certains shorts. On a fait un gros teaser pour la vidéo des 1 an. Et résultat des courses, tout de suite, la vidéo des 1 an a percé. Et je suis quasi certain, en arrêtant nous les shorts sur cette chaîne, que les 3, 4, 5 vidéos et toutes les suivantes vont pouvoir reprendre de plus belle et on va retrouver un rythme comme on avait à partir de Sokona, Romain, Max et j'en passe, tu vois. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion aussi, et tu l'as très très bien dit, la typologie d'abonnés que tu génères avec des shorts est complètement différente de la typologie d'abonnés que tu génères avec des vidéos traditionnelles de contenu qu'on va consommer plus long terme. Et ça, c'est important quand même que celles et ceux qui nous écoutent en prennent conscience. Alors que quand on est sur un TikTok ou quand on est sur Instagram et qu'on fait du Reels, finalement, il n'y a pas vraiment d'autres types de contenu à consommer sur la plateforme. Donc, un abonné égale un abonné. Pour moi, ça a la même valeur que tu gagnes un abonné grâce à une photo Insta ou grâce à un Reels. Alors que gagner un abonné grâce à une vidéo verticale qui apporte une vidéo horizontale qui apporte énormément de valeur ou à un vertical de 12 secondes qui est parti viral, pour moi, ça n'a pas la même valeur d'abonné quand même.
Ah mais pas du tout, et même moi en fait ce que je fais sur les réseaux, c'est que je traque combien chaque email me rapporte sur un an. L'idée, c'est comme ça en fait, moi c'est ma métrique, c'est un petit peu pour calculer, pour voir aujourd'hui si un email qui vient de TikTok est aussi valuable qu'un email qui vient d'Instagram, et les résultats sont sans appel.
Okay.
Je crois que sur TikTok, alors là, il faut qu'on mette à jour parce qu'on a fait un autre lancement. Sur TikTok, chaque email que j'obtiens depuis la plateforme me ramène en moyenne entre 3 et 6 euros par an en cumulant les différents lancements. C'est-à-dire, si je fais 4 lancements, c'est combien en tout et pour tout un email m'a ramené. Instagram, je suis plus sur du entre 20 et 30 euros. Donc déjà, rien que la différence entre Instagram et TikTok est complètement folle. Et malgré tout, YouTube horizontal, j'ai quand même aujourd'hui de la capture d'email, j'en ai pas beaucoup. Mais on est sur du 40 à 60 euros en moyenne selon les lancements. J'ai pas assez de recul parce que ça fait qu'un an du coup que je fais, ça fait moins d'un an que je fais le YouTube horizontal. Mais il n'y a pas de photo. Quand tu passes de 3 euros à 50 euros pour un email obtenu sur TikTok ou sur YouTube horizontal, ça n'a pas de photo. Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que moi, ce que j'espérais, moi, c'est que les vidéos verticales me fassent gagner en notoriété et que ensuite les gens qui veulent en savoir plus sur moi foncent sur de l'horizontal. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des vlogs là, dans le pipe de montage qu'il faut publier. Et j'espère, tu vois, que ça va un petit peu prendre comme ça quand même, que la notoriété que m'a apporté le vertical va se transformer en qualité x10 grâce aux vidéos horizontales, on verra. Mais je te rejoins à 1000% sur ce que tu as dit. Un abonné, ce n'est pas exactement en effet la même valeur selon la plateforme.
Ouais, complètement. Je te remercie pour la transparence dont tu fais preuve à l'égard de ces chiffres, parce que pour celles et ceux qui nous écoutent, vraiment mettez de la valeur sur ces chiffres et cette data. Si vous créez du contenu, quel que soit votre business, hein, aujourd'hui effectivement Bastien, tu as un business de formation et de conseil, mais finalement tu aurais un business, tu serais paysagiste, tu serais plombier, tu serais consultant, tu serais agent immobilier, tu serais fleuriste, tu serais peu importe, finalement tu pourrais quand même créer du contenu et la valeur de tes propos serait également la même pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc vraiment comprenez que la valeur d'un prospect n'est pas la même selon la source de la plateforme par laquelle il a été acquis. Et ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'en plus, c'est complètement organique. Donc, ça peut donner de la data aussi sur, OK, si je fais de la publicité, vers quelle plateforme spécifiquement j'irai m'orienter selon le coût d'acquisition que je pourrais avoir. Effectivement, le CPA sur Google avec en se mettant en in-stream ou une discovery devant des vidéos YouTube est plus élevé en général, mais plus qualifié. Mais donc, carrément, ça explique cela et on pourrait se le permettre. Alors que sur TikTok, on va pouvoir aller chercher des coûts d'acquisition qui vont être beaucoup, beaucoup plus faibles parce qu'il y a plus d'impressions, plus d'exposition. Le CPM, le CPL est plus faible, mais peut-être moins qualifié. Donc, c'est important que tu nous partages ça et je te remercie pour ça. Aujourd'hui, comment tu as structuré ton business? Parce que on voit presque 1 million d'abonnés, on voit énormément de contenu qui est créé. On comprend que ça marche bien pour toi, que tu fais des lancements, que c'est cool. Tu as une équipe derrière toi. Tu nous as dit avant que tu travaillais effectivement avec ta copine qui est un petit peu COO, bras droit, directeur des opérations. Mais comment est structuré le business au global?
Écoute, moi, c'est très simple. Aujourd'hui, j'ai, on va dire, 3 pôles dans la boîte. Alors, j'ai le pôle formation en ligne où directement, là, on a 2 formations en ligne. On aimerait en mettre une 3e. Mais je suis un peu frileux parce que moi, je suis de l'école de Sam Ovens, où Sam Ovens, il dit ouais. « Only one product » avec son accent néo-zélandais. Et du coup, moi, j'ai envie aussi de me focus sur une formation. Mais l'idée, c'est que pour l'instant, on fait des lancements. On fait des lancements sur notre base de données, sur les réseaux. Ce que je fais toujours, c'est que j'essaye des lancements sans pub. Et ensuite, on essaye de scaler avec les pubs. Ça nous permet de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas en limitant les potentiels risques. Donc, première source de revenus, c'est les formations. Ensuite, l'idée, c'est vraiment de faire une échelle de valeur, c'est-à-dire que suite aux personnes qui ont acheté la formation, j'espère que certains vont me booker pour des conférences. Il y a aussi des... avant, je faisais pas mal de formations, mais j'aime tellement les conférences que maintenant, j'essaye de me focus quasiment que là-dessus. Et donc, l'idée, c'est que les personnes qui me découvrent grâce aux formations en ligne qu'ils achètent... Dans mes formations, il y a des modules bonus qui leur proposent directement d'aller de me booker en conférence. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de faire un petit peu une boule de neige. Les gens rentrent dans ma formation en ligne. Et ensuite, le deuxième pôle, donc, c'est le pôle conférence/formation. Donc ça, on va dire que c'est mes 2 sources de revenus principales à l'heure actuelle. Et j'en ai une troisième qui est bonus. Et la troisième bonus, c'est un petit peu partenariat. Au début, j'étais vachement frileux à l'idée de faire des partenariats. Et en fait, ça a permis de taffer avec des gens incroyables, voire de faire ensuite du consulting. Et donc, depuis, j'ai vraiment rentré le pôle partenariat carrément dans le business model, même si symboliquement, je ne les encaisse pas sur mon entreprise. C'est-à-dire que c'est Manon qui a créé son entreprise et qui encaisse les revenus liés au partenariat. Comme ça, c'est elle qui gère tout, en fait. Moi, je suis juste vraiment le producteur de contenu, mais tout le reste, c'est Manon qui gère à 100%. Et en fait, comme ça, déjà, moi, je ne vois pas dans mon chiffre d'affaires. Et je m'étais interdit ou de faire des vidéos pour des partenariats. Et donc, au moins comme ça, moi, je sais que si je fais un mauvais mois, mais qu'on a beaucoup de partenariats, bah non, c'est pas bon, tu vois. Et donc, on va dire que ça, c'est pour l'écosystème un petit peu d'offres que j'ai. Et en termes d'équipe, on est, on va dire, 5. On est 5 aujourd'hui vraiment salariés, enfin, sans me compter, avec des monteurs, un CM et autres. Et ensuite, en fonction des besoins, on prend des freelances externes selon nos besoins pour le copywriting, pour les pubs. On a des gens qui gravitent un petit peu autour de nous, mais ce n'est pas des salariés.
Ok, je vois. Donc, c'est intéressant, tu as constitué une équipe qui a l'image aussi de ce qui te stimule. C'est relativement libre, relativement carrément remote. Et ça te permet d'avoir justement cette agilité qui est intéressante à avoir quand tu es cette typologie de business. On en parlait très rapidement. Qui dit du coup forte visibilité, forte exposition, dit qu'on attire beaucoup de gens, mais parfois tout type de gens, qui fait que tu as dû ajuster justement ton positionnement au fur et à mesure du temps. Tu me disais en off qu'au départ, ton positionnement était très clair, très spécifique, très ciblé. Et puis au fur et à mesure du temps, tu as eu tellement de demandes aussi sur d'autres axes potentiels et autres que tu as dû être un petit peu plus généraliste. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette capacité que les gens doivent avoir à un moment donné quand tu commences à t'exposer davantage, à réussir à pivoter ou en tout cas répondre à ça? Est-ce que tu penses que ça a été une erreur ou plutôt quelque chose de plutôt très positif pour toi? Comment tu abordes la chose aujourd'hui?
Écoute, tu sais, on parle de la crise d'ado, on parle de la crise de la quarantaine, on parle pas assez de la crise du positionnement, parce que j'ai l'impression qu'on l'a tous portant un jour ou l'autre. Moi, un des concepts marketing dont je suis le plus certain, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas les idées claires, quand les idées sont pas claires, les conneries sont précises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne sait pas exactement à qui on s'adresse et qu'on ne sait pas exactement ce qu'on vend et comment on le présente, ça sent pas bon. Et moi, je faisais un petit peu la guerre à toutes les personnes que j'accompagnais en disant, mais les gars, si dans un dîner de famille, vous n'êtes pas capable de dire en 3 secondes ce que vous faites, qui vous aidez et comment vous le vendez, vous êtes dans la merde. Et tu sais, en général, quand on te dit, bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? À partir du moment où tu dis, bon, c'est compliqué, j'ai plusieurs positionnements, ça sent pas bon. Et en fait, moi, j'étais extrêmement bien positionné. J'avais une agence qui aidait les coachs indépendants qui ciblaient du B2B à obtenir des clients sur LinkedIn sans utiliser les publicités. Je savais exactement ce que je vendais, je savais exactement les problématiques que je résolvais. Et un beau jour, avec les réseaux qui ont commencé à pop, on m'a dit, bah tiens, j'ai vu que tu faisais une vidéo sur la vente, est-ce que tu pourrais former mon équipe de vente? J'ai dit, bah ouais, moi j'adorerais, je pourrais le faire. Et donc, je vais commencer à le faire. Ensuite, on m'a dit, ouais, j'ai vu que tu as fait une vidéo où tu parlais des webinars, tu pourrais m'aider à organiser un webinar? J'ai dit, bah ouais, ça, je pourrais le faire aussi. Et en fait, à force d'aider plein de personnes, ça m'a, un jour, j'ai eu un déclic encore. Je vais dans un meet-up d'entrepreneurs et il y a un gars qui vient me voir et qui me dit, bah c'est cool, et toi, donc concrètement, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai eu un petit bug, Alec. J'ai eu un petit bug où je savais pas exactement quoi répondre. Et là, c'est là où j'ai sorti le drapeau rouge, où je me suis dit, oula, il y a un problème. Et en fait, ça fait un petit peu écho à ce fameux concept qu'on appelle scale, mess, deb. C'est-à-dire, la croissance t'amène pas mal de bordel. Et à un moment, il faut payer ce bordel, il faut payer tes dettes. Et moi, la plus grosse dette que j'avais, c'était la dette du positionnement. De savoir comment je me positionne et tout. Et c'est un problème que j'ai en partie résolu, mais pas à 100% encore, tu vois. C'est encore trop flou pour moi. Et alors, moi, j'ai le luxe aujourd'hui, grâce à la communauté, de pouvoir me permettre d'être un petit peu plus flou sur mon positionnement. Mais toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, si vous voulez faire de la pub, si vous voulez faire n'importe quelle action d'outbound marketing, si aujourd'hui vous n'avez pas le luxe d'avoir une communauté, alors vous devez être mais carré à 2000% sur votre positionnement. Pour moi, c'est de loin la clé de tout. Et même moi, je devrais faire beaucoup plus de travail pour être beaucoup plus positionné. Et en tout cas, sur mes offres, j'essaye d'être le plus positionné possible.
Ouais, complètement. Je te rejoins. La précision du positionnement, c'est capital. Savoir s'adresser de la bonne façon aux bonnes personnes. Et ça me permet de rebondir et de te poser l'avant-dernière question que j'ai à te poser. C'est savoir s'adresser de la bonne façon aussi aux algorithmes et aux bons algorithmes. Parce que tu es présent sur beaucoup de plateformes, TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube, tu me parlais même de Pinterest. Comment tu gères ta stratégie de contenu pour chaque plateforme individuellement, sachant que chacun des algorithmes finalement sont complètement différents? Est-ce que tu crées du contenu différent pour chaque plateforme? Est-ce que tu recycles du contenu? Si oui, quelle est ton approche sur ce contenu? Est-ce qu'il y a des plateformes qui sont prioritaires et qui font que tu vas benchmark des contenus pour valider que ce contenu est bon pour ensuite le mettre que sur certains types de plateformes? Ça peut être intéressant justement d'avoir ta vision de la chose, compte tenu que tu es assez omniprésent et multiplateforme aujourd'hui dans ta création de contenu.
Ouais. Alors, moi, je pense que les algorithmes sont de très bons esclaves, mais de bien mauvais maîtres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, moi, j'étais obsédé par les algorithmes. Et le gros problème des algorithmes, c'est que c'est terrible de te concéder ça, mais la seule chose que je sais sur les algorithmes, c'est que je ne sais rien, pour faire mon philosophe. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand je, c'est assez terrible, mais quand je vois les algos, des fois, je suis obligé d'avouer que je comprends pas tout. Comme tu le dis, parfois, il y a une traction monumentale sur des vidéos. T'as l'impression que tu peux faire n'importe quelle vidéo, elle cartonne, et à un moment donné, ça s'écrase complètement. Et moi, en fait, j'ai fait un choix. C'est de ne me baser sur aucun algorithme, c'est-à-dire que je ne fais pas des vidéos spécialement pour une plateforme plus qu'une autre. Je me base sur le contenu, et généralement quand même, le contenu, on a beau dire ce qu'on voudra, ça fonctionne. C'est-à-dire que un bon exemple de ça, aujourd'hui, quand on va par exemple parler d'actualité, je suis très jaloux d'un gars comme Hugo Decrypt, parce qu'aujourd'hui, tous les jours, il a des idées de contenu hyper pertinentes. Et peu importe la plateforme aujourd'hui, qu'il fasse une publication sur TikTok ou Instagram, ça va marcher parce que quand tu parles par exemple du conflit qui se passe en ce moment, ça va intéresser malheureusement tout le monde. Et je pense que du coup, à partir du moment où le contenu est bon, ça marchera. Si aujourd'hui, tu as Macron qui dit une dinguerie, même s'il ne respecte pas toutes les règles de l'algorithme, eh ben la vidéo va cartonner. Et donc moi, je me base plus sur ça. Je me base plus sur l'idée de mettre le contenu en avant comme principal focus. Je me base uniquement sur le contenu. Après, évidemment, si je sens par exemple un moment avant la monétisation d'une minute, si tu faisais une vidéo sur TikTok de plus d'une minute, ça déchirait tout. D'ailleurs, petite anecdote et petite pépite, Alec, tu pourras le couper si tu veux qu'on le garde que pour nous, mais aujourd'hui, si tu fais des vidéos,
on partage
on partage, c'est cadeau. Si on fait des vidéos sur TikTok au-delà de 3 à 5 minutes, en ce moment, les algos, ils le poussent à 200%. Mais vraiment, il y a un Américain qui a pop de n'importe, de nulle part. Il fait ses vidéos. Et j'avais même pensé, moi, essayer de reposter mes vidéos YouTube directement pour tester. Il faudrait que je le fasse. Et là, en ce moment, bah, c'est le délire. Si tu fais une bonne vidéo à 3-4 minutes, t'as des vidéos. Là, il y a une vidéo de ce fameux gars. Enfin, je retrouve le nom. La vidéo, je crois qu'elle fait 5 minutes et il a fait 3 millions de vues, c'est n'importe quoi. Et sur TikTok, ça n'existe pas, ça, normalement. Donc oui, parfois, l'algorithme met certains formats en avant plus que d'autres. Mais tu vois, moi, ma finalité, malgré tout, c'est toujours le même type de contenu qui marche sur tous les réseaux. Ça m'arrive parfois d'avoir un bid sur un réseau et sur toutes les autres plateformes, ça marche. Mais moi, j'ai des formats. Je sais pertinemment que dans la majorité du temps, la majorité des fois où je le publie, ça marche aussi bien sur TikTok, enfin aussi bien, ça marche en proportion aussi bien sur TikTok que sur Instagram que sur YouTube. Même si en effet, parfois, il y a quand même des formats, je te dis ça, mais il y a quand même des formats qui en effet marchent beaucoup plus sur YouTube que sur TikTok. Mais pour répondre à ta question, moi, j'ai pas réussi à craquer le code à 100% des algorithmes parce que je pense que ça change tout le temps. Moi, ce que je me dis, c'est que les algorithmes, ils ont un seul objectif, c'est de mettre des contenus qui font en sorte que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme. Et les contenus qui font en sorte que les gens restent le plus longtemps sur la plateforme, c'est des bons contenus. Donc, je suis obsédé par ça. Ouais. Et j'invite ton audience, dans un premier temps, à penser à ça.
Ouais, non, je te rejoins et ça revient, la boucle est bouclée avec ça, ça revient un petit peu aux différents conseils que tu nous as partagés tout au long de cet échange. Merci d'ailleurs pour cet échange. D'ailleurs, si
merci à toi, Alec.
Ceux qui nous écoutent ont eu autant de plaisir à nous écouter que je n'ai eu à animer cet épisode, faites-le nous savoir comme à chaque fois avec les 5 étoiles sur Apple Podcast, l'avis également, le commentaire, le follow sur Spotify. Manifestez-vous également l'interaction sur le LinkedIn. Il faut savoir qu'au moment où on se parle là, On est classé deuxième podcast le plus écouté en France dans la catégorie entrepreneuriat. Hier, on était le troisième. Donc, avec un peu de force, peut-être qu'on peut maintenir cette position au podium et même aller chercher la première.
Allez, il faut détrôner le number one.
Première place. C'est ça. Donc, on va faire en sorte, c'est grâce à vous si on en est là, ceux qui nous écoutez. Donc, merci pour ça. Bastien, dernière question à te poser, question que je pose à chaque invité du podcast Le Déclic. Parmi tout ce que tu nous as partagé, est-ce qu'il y a un déclic, un élément qui a littéralement créé une transformation identitaire chez toi, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel, que tu n'as pas partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé dans aucune interview, que tu as envie de nous partager ici aujourd'hui? Tu as carte blanche pour le mot de la fin.
Alors, te partager quelque chose que je n'ai jamais partagé. C'est une très bonne question, Alec, parce que l'ennui quand on fait une vidéo par jour, c'est qu'on raconte quand même pas mal de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Je suis désolé, Alec, si ce n'est pas très pertinent d'un point de vue entrepreneurial. Mais tu sais, quand on dit... Quand je disais qu'il faut faire tout ce que la conseillère d'orientation te dit de ne pas faire. Moi, quand j'étais petit, j'avais... un rêve, c'était de devenir acteur. J'étais fan de Johnny Depp. Et ça, pour le coup, je crois que j'ai jamais raconté. J'étais fan de Johnny Depp et j'avais envie de devenir acteur. Et d'un autre côté, ce que j'avais envie de faire, c'était aussi de faire du commerce parce que je voyais mon père qui était entrepreneur et je voyais à quel point il était épanoui. Et donc, j'avais un peu cette dichotomie où j'avais envie de faire acteur et j'avais envie de faire du commerce. Et c'était deux choses qui n'avaient rien à voir. Et en fait, c'est marrant, mais quand on veut vraiment quelque chose, quand vraiment on a des passions qui peuvent être différentes, et ben on trouve toujours finalement un moyen de les mettre ensemble, en combiné. Et aujourd'hui, même si je ne fais pas des films à Hollywood, et ben malgré tout, j'expose ma tête sur les réseaux sociaux, je fais des sortes de petits films en parlant de commerce, en parlant de vente, en parlant de closing, de marketing, de persuasion. Et donc au final, si on peut donner un message un peu à l'audience, toutes les singularités, toutes nos passions, si on parvient à les combiner ensemble et à les mettre en place sur au service, par exemple, d'un business ou autre, et ben finalement, ça peut donner des choses assez intéressantes. Donc, réfléchissez si aujourd'hui, vous n'avez pas des passions qui pourraient se combiner. Généralement, c'est ce qui vous permettra de créer votre singularité et de vous différencier sur les réseaux.
Merci, Bastien.
Merci à toi, Alex. C'est un plaisir.